Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Vive le cinéma et c'est la table ronde critique, désormais traditionnelle sur Aligre FM 93.1 qui s'ouvre en ce mois de juin avec toujours Benoît Basirico à mes côtés, Pierre Charpillose également, bonjour à tous les deux.
Bonjour. Salut.
Et nous aurons également la présence dans quelques instants de Nadia Mefla qui va nous rejoindre, qui est toute nouvelle dans cette table ronde critique. Alors nous avons plusieurs films au programme, Furiosa de George Miller dans un deuxième temps, mais d'abord Marcello Meglio de Christophe Honoré, Love Lies Bleeding qui est un film de Rose Glass qui va sortir mercredi prochain, et puis Rendez-vous avec Paul Pot de Riti Pan, et puis bien évidemment nous parlerons du Festival de Cannes où vous étiez tous les deux, Nadia aussi je crois, moi j'y étais pas, mais voilà, on pourra quand même discuter de ce que vous avez vu cette année à Cannes.
On débriefera le palmarès.
Le palmarès, voilà. Puis on aura peut-être des coups de cœur.
Oui, chacun sûrement.
À partager, voilà.
Voilà, une émission réalisée par Enrico Mastro Giovanni.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Di Marcello, perché ridi? C'est si cruel, cette plaisanterie. Di Marcello, pourquoi tu ris? Ce n'est pas si drôle vu d'ici. Ce vilain tour que tu me joues, de ton absence inexcusable, vois-tu, ne m'amuse plus beaucoup. C'est une farce bien lamentable. Tu as disparu, je ne sais où. Tu as réussi, j'ai eu peur. Depuis, plus de larmes à mes joues. Elles coulent, mais c'est un
Marcello Meglio, donc, on entend là la voix de Catherine Deneuve hein, qui joue dans le film quasiment son propre rôle, donc la mère de Chiara Mastroianni, et la chanson que l'on vient d'entendre, dit Marcello Perché Ridi en italien, est composée par Alex Bopin, le compositeur qui retrouve là son cinéaste de prédilection Christophe Honoré. On avait pu déjà entendre ses chansons dans Paris, ou encore évidemment les chansons d'amour, ou encore Les Bien-Aimés.
Et donc c'est effectivement l'histoire d'une femme qui s'appelle Chiara. Elle est actrice, elle est la fille de Marcello Mastroianni et de Catherine Deneuve, et le temps d'un été, chahutée dans sa propre vie, elle se raconte qu'elle devrait plutôt vivre la vie de son père. Elle s'habille désormais comme lui, parle comme lui, respire comme lui, et elle le fait avec une telle force qu'autour d'elle, les autres finissent par y croire et se mettent à l'appeler Marcello. Alors Marcello, qu'est-ce qu'on en a pensé, Benoît, Bernard?
Tu dis que son entourage a fini par y croire, sauf que moi, je n'y crois jamais. Pour moi, il y a un problème d'incarnation. C'est-à-dire que tout le film repose sur l'idée qu'elle se transforme en son père, mais moi, à aucun moment je n'y crois. Donc du coup on frôle le grotesque, on frôle le ridicule. J'aime beaucoup le Christophe Honoré en général, mais là je trouve que c'est son premier échec, hein. C'est la première fois qu'il rate vraiment ce qu'il a à nous transmettre. Et puis au final moi j'avais l'impression à un moment donné que c'était un peu les petits mouchoirs dans le milieu du cinéma, une espèce de huis clos. Alors en général j'aime beaucoup chez Christophe Honoré un peu cet esprit de troupe qu'il a pu mettre à l'œuvre dans les Guermantes sur le théâtre.
Mais beaucoup à ce film,
ouais. Voilà. Mais je trouve que là, cet esprit de troupe devient un huis clos familial, un entre-soi, et je trouve que ça culmine dans une scène ridicule qui est cette scène de beach volley, où ils sont tous en train de se renvoyer la balle, etc. Voilà, pour moi, ça fonctionne pas du tout, et ça culmine aussi dans la scène de télévision italienne, où pour moi, c'est presque au bord du malaise.
C'est vrai qu'au bout d'un moment, on voit plus trop où va le film, c'est-à-dire que l'idée départ, elle peut être intéressante, et puis elle est intéressante aussi à relier à ce qu'a fait Christophe Honoré, si bien au théâtre comme au cinéma, parce que l'idée de mettre en relief en tout cas ces nombreux fantômes, c'est vraiment un truc qu'il a réalisé avec Chiara Mastroianni au théâtre, avec Le Ciel de Nantes, où elle incarnait justement un de ses fantômes à lui, dans sa famille, parce que c'est une pièce sur sa famille. Et puis après, je trouve que le film, il est vraiment intéressant dans la manière dont on le relie à la limite à ses propres obsessions, etc. Et à la thématique du deuil du père, par exemple, qu'il a réexploré. Enfin, moi, je préfère nettement le lycéen. Mais voilà, il continue en tout cas avec cette question-là et d'une manière un peu plus, voilà, qu'on peut estimer aussi un peu plus audacieuse, parce que ça passe ou ça casse, en tout cas, cette histoire-là. Mais au bout d'un moment, je trouve que ça, le film patine quand même. Et je comprends pas, évidemment, pourquoi on se retrouve d'un seul coup dans cette émission en Italie. Enfin, il y a des coups de force comme ça, scénaristiques, qui ressemblent trop justement à des coups de force et qui passeraient pas dans un premier film, par exemple. Là, on lui accorde quand même beaucoup, beaucoup de bienveillance, aussi bien dans la façon de lui accorder des moyens de faire ce film, mais en même temps aussi dans la réception, parce que je trouvais que la réception était plutôt... plutôt bonne. Et après, ce qui m'a, à la limite, bon, pour vraiment aller vers le chaud ou le froid, ce qui m'intéresse à la limite, c'est le trouble de l'identité, le fait que le film soit pour la première fois, peut-être non, peut-être pas la première fois, mais en tout cas, il y a une vraie dimension queer dans son cinéma. Le fait qu'elle ressemble finalement ni à un homme ni à une femme, qu'elle soit vraiment dans un truc. Dans l'idée de créer un personnage qui ressemble ni à elle-même ni à Mastroianni père. Et bon, ça, je trouve ça intéressant dans les rapports qu'elle a avec ce soldat anglais, etc. Et dans, voilà, dans la façon dont elle évolue dans le film, pardon. Voilà, mais voilà, je suis un peu mitigé en gros. Pierre,
oui, je suis assez d'accord, même si je suis peut-être aussi au moins moins déçu que vous l'êtes, mais je suis assez d'accord effectivement que ça suit une ligne du cinéma et de l'œuvre, même théâtrale effectivement aussi, de Christophe Honoré depuis quelques temps, qui est autour de l'autofiction. Ça ressemble beaucoup à Guermantes, ça ressemble pas mal au Ciel de Nantes, et c'est vrai que c'est un genre avec lequel on a plus de mal à l'aborder au cinéma qu'en littérature ou ailleurs, et je suis assez content que des films s'en emparent et jouent de la réalité pour essayer de l'ouvrir et de raconter autre chose. C'est vrai qu'il faut quand même être un peu au fait de la vie de Chiara Mastroianni pour bien comprendre, savoir qu'elle a été en couple avec Melville Poupeau dans ses jeunes années, qu'elle était avec Benjamin Biolay. Voilà, il faut savoir ça, même si on le comprend quand on voit le film. Et puis il y a ce personnage de Fabrice Lucchini qui est un peu le personnage extérieur, qui est notre regard extérieur dans ce monde, qui lui aussi joue un peu gentiment de lui-même. Donc j'ai bien aimé qu'un peu chacun se moque un peu de soi-même. Catherine Deneuve, elle l'a beaucoup fait déjà dans d'autres films, mais ça reste toujours assez amusant. Fabrice Lucchini aussi, même si là où je pense que ça fonctionne moins bien que Le Ciel de Nantes ou que Guermantes, c'est que c'est moins radical, c'est moins fort, et ça se veut surtout très grand public. Ça se veut un film pas que pour les fans hardcore du cinéma de Christophe Honoré, mais vraiment le grand public, d'où la scène, la séquence avec la télévision italienne, d'où certaines séquences pas forcément moins intéressantes. Et du coup, ça perd un peu de force, ça perd un peu d'efficacité, même si ça va au-delà de ce récit de Nepo Baby, qui est assez intéressant, effectivement, ce côté, voilà, on a ces figures tutélaires écrasantes, comment est-ce qu'on essaye d'exister là-dedans, c'est assez intéressant, mais il n'y a pas l'émotion aussi forte qu'il pouvait y avoir dans les œuvres qu'on a citées tout à l'heure, ce qui est un peu dommage. Et cette histoire parallèle là, du soldat anglais, je n'ai pas trop compris où est-ce qu'il voulait en venir avec ça, ce truc, on ne sait pas trop si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, qui a l'air un peu hors du temps... Je trouvais ça un peu lourd et moins intéressant. J'aurais aimé que ça m'émeuve plus, et si ça m'avait plus ému, je pense que j'aurais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Là, ça n'a pas été le cas, je suis passé un peu à côté, même si j'aime bien l'intention derrière ça. Et puis bon, les chansons chantées par Catherine Deneuve, c'est joli, mais on en a un peu marre.
C'est pour ça qu'on l'a entendu.
Elle chante un peu tout le temps pareil, quoi.
Et tu parles d'un esprit grand public, de vouloir faire un film grand public, mais je trouve que c'est là un paradoxe, puisque d'un côté il veut faire un film grand public, et de l'autre côté, si on n'a pas les clés, on comprend rien. C'est un peu bizarre,
ce film. Tout à fait.
C'est un film presque monstrueux.
Ah bah ça va bien, bel enchaînement avec la suite.
Oui,
tout à fait.
Alors,
Après la chanson de Catherine Deneuve, on est dans un tout autre registre avec ses sonorités rugissantes. On a l'impression d'entendre un bolide qui roule sur le désert. Il s'agit évidemment de Furiosa avec cette musique de Junkie XL qui retrouve George Miller après Mad Max Fury Road et après 3000 ans à t'attendre, compositeur de l'orchestre Tony Truant et puis d'une dimension sonore un peu qui nous met tout de suite en immersion auprès du vrombrissement des machines, une sorte de saturation auditive.
Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortan Joe, et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. C'est donc Furiosa, une saga Mad Max de George Miller avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Et on accueille... notre Furiosa de cette émission, Nadia, qui nous a rejoint tout à l'heure. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Salut Nadia, bienvenue, ravie.
Bienvenue, mais...
Alors, est-ce que tu veux commencer
si
à nous donner
ton
avis sur ce
oui,
film?
Oui, si je suis la Furiosa comme tu m'as présenté, je serais plus portée par l'amour. Ce qui est quand même aussi l'extraordinaire récit de ce film. Alors évidemment, on pense toujours à la vengeance... Mais le film est complètement un film pénétré par l'amour. Non pas l'amour sentimental, je t'aime, j'aime les gâteaux, tu veux me marier, on va faire des enfants. Non, certainement pas ça. Celle qui a la puissance de création. Ce qui est extraordinaire avec ce film, c'est qu'il s'adresse à tout le monde, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa philosophie, puisqu'il est au cœur même de l'atome. Bon, on peut penser à la pensée atomique. On peut penser aussi au soufisme, on peut penser à n'importe quelle spiritualité que l'homme a créée, on le retrouve dans ce film. Et quel est le pouvoir de ce film? C'est le scénario. Il n'y a pas très longtemps, j'ai revu grâce à l'extraordinaire travail qui a été fait à la Cinémathèque,
Napoléon
d'Apollingance, 1927 et Furiosa, on retrouve...
C'est le Napoléon 2024.
Voilà. Non, on écarte. C'est-à-dire les forces telluriques de puissance. Effectivement, Napoléon, c'est une figure politique. Et là, on peut dire aussi que Furiosa est une figure politique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la première heure, on est dans la tragédie, l'épopée, l'épique. Se circule dans nos têtes tout ce que l'on a lu, tout ce qu'on a pu découvrir de là où on est. Ça peut être limite soufi, ça peut être limite indien, ça peut être évidemment les Grecs, ça peut être aussi Shakespeare. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et surtout, ça nous dit quelque chose de maintenant. Entre les puissances et le pouvoir. Le pouvoir, c'est toujours l'ordre du social, du temporel, du massacre, des guerres, de la fureur des machines, de la fureur des combats que l'on retrouve. Qu'est-ce que la puissance? La puissance n'a que faire du temps. Elle était là avant nous, elle est en nous, elle sera là après nous. Et ce rapport cosmogonique fait que Furiosa, c'est, je crois, la première fois de ma vie que j'ai envie de revoir un film de Miller au cinéma et je vais me précipiter.
Donc tu as aimé le film, c'est très
bien. Donc on a bien compris que tu avais
aimé le
film.
Moi aussi.
Mais écartons la vengeance parce que de cette vengeance-là, c'est juste un petit moteur, puisqu'elle va vivre des cheminements, et comme nous d'ailleurs. Mmh. Et évidemment, tu as évoqué tout à l'heure un film grand public. Ça, c'est une notion interrogée, parce qu'elle peut être assez obscène quand on est dans un rapport commercial. Là, c'est vraiment un film à tous les publics.
Mmh. Benoît,
je me permets de saisir ta balle au bon, parce que tu évoques Napoléon. Alors, je ne pensais pas forcément à Napoléon, mais je pensais au cinéma muet. Je disais que le plaisir de ce film, face à ce film, c'était de retrouver le plaisir du cinéma muet, c'est-à-dire du pur mouvement, du pur montage, dans cette course continue, parce que c'est un film d'action, et qui joue sur un rythme continu. On est tout le temps en mouvement, tout le temps dans les véhicules en mouvement, et donc il y a cet aspect guerrier, on est dans le moteur, on est dans l'huile, dans le cambouis. Donc ça, c'est une première chose qui m'a plu dans ce film, c'est cette dimension en mouvement. La deuxième chose qui m'a plu dans le film, c'est cette histoire de vengeance. Donc c'est le moteur, en quelque sorte, qui motive le récit. C'est lorsque cette jeune femme veut venger la mort de sa mère. Et donc, ça, c'est l'histoire de toute la saga Mad Max, hein, puisque le premier Mad Max jusqu'au dernier, il y a toujours le carburant du revenge movie. Et c'est aussi, en troisième lieu, un récit d'apprentissage. On a vraiment une jeune femme qui grandit au milieu d'un monde d'hommes, qui va apprendre la survie, qui va apprendre le langage, et donc qui va aussi apprendre les codes d'une communauté. Et donc ça, c'est les trois choses qui m'ont plu, c'est l'action, le récit de vengeance et l'apprentissage.
Bah, vous avez déjà tout, vous avez tout dit sur le film. Moi, je trouve le film aussi assez passionnant. Enfin, comme blockbuster aussi. Enfin, c'est un film assez, c'est un pur plaisir du cinéma aussi. Faut le dire, faut le rappeler. Et notamment cette scène centrale avec le camion, qui est le camion citerne attaqué par les motos et avec cette trajectoire horizontal. D'ailleurs, le film, pour moi, il est très horizontal, quoi. Il est très formé de lignes, comme ça, continue, avec... on va d'un point A à un point B, et dans un sens, dans l'autre, etc. Il faut rappeler quand même que Furiosa est incarnée par Anya Taylor-Joy. On n'a pas prononcé son nom, mais quand même, elle est assez incroyable.
Série télé, la reine des la série Netflix, je crois, la reine des dames, le jeu de la dame.
Le jeu de la dame.
Le jeu de la dame, voilà. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est quand même la mise en scène, quoi. La mise en scène au cordeau de George Miller, et avec un découpage de folie, quand même très impressionnant, quoi.
Avant la vengeance, il y a quand même la course-poursuite, puisqu'il y a le kidnapping. La vengeance vient au bout d'une heure. De même, c'est peut-être linéaire, mais c'est aussi circulaire dans la structure du récit. Et il y a la première heure et la dernière demi-heure. Vous évoquiez tout à l'heure le cinéma muet, on pourrait dire la scène théâtrale, c'est-à-dire la scène dans le sens quasiment
religieux.
Tout ce que tu veux, mystique. Mais,
linéaire, parce que si je peux avoir aussi un bémol, c'est que parfois on a l'impression que dans le scénario que ça tourne un peu en rond aussi.
C'est peut-être la durée des courses-poursuites qui peuvent paraître un peu longues, parce que je crois qu'il y en a quatre. Et c'est pour ça que c'est aussi, par exemple, quand tu parles qu'elle est élevée par les hommes, tous les plus beaux films sur la filiation, ce sont des récits d'adoption. Et c'est aussi un très grand film sur la paternité. Paternité monstrueuse, les Grecs nous l'ont appris. Nous sommes dans la tragédie quand les pères tuent leurs enfants. Nous sommes dans le fascisme quand les enfants tuent leur père. Et ça, c'est une des grandes leçons d'un des derniers films Star Wars, où nous avons, je crois, le fils qui va pour tuer le père. Et c'est une catastrophe. Là, on est encore dans le registre de la tragédie. Et c'est vrai qu'il y a aussi une relation filiale très forte. Elle a été arrachée, kidnappée. Oui. Voilà. C'est pour ça que cette vengeance est beaucoup plus complexe que ça.
Tout à fait. Ouais, et tu dis que la vengeance arrive au bout d'une heure, juste précise, 2h30 le film.
2h30, oui, 2h30, effectivement. Qu'on sent pas trop passer, c'est vrai que vous soulignez le scénario, au-delà du récit en lui-même, qui est un récit qui, bon, comme tu le disais un peu d'une certaine manière, Mania, qui reste malgré tout assez conventionnel, je veux dire, c'est des structures de récits, de personnages, de situations qu'on connaît très très bien, mais il est très bien ficelé, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue technique, il fonctionne très très bien, ce qui fait qu'on s'ennuie pas, que les séquences s'enchaînent sans qu'on ait ce sentiment de longueur malgré les 2h30. Après, je suis d'accord sur l'ensemble de ce que vous dites. Il faut quand même rappeler que c'est après Mad Max Fury Road, qui est donc sorti il y a maintenant près de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, et que ça ressemble quand même beaucoup à Mad Max Fury Road. Donc cet effet de surprise, cet effet de montage assez, vraiment, assez passionnant, assez fou, qu'on avait découvert avec Fury Road, on le retrouve ici, mais à l'effet de surprise en moins, et donc il y a un peu ce sentiment de redite qui fait que je trouve que c'est un peu moins fort que... Qu'a été Fury Road à l'époque, d'autant aussi que ça me semble moins spectaculaire, même d'un pur point de vue de tournage, que Fury Road. Les scènes sont efficaces, mais elles sont moins impressionnantes, où il y a moins cet effet, j'ai jamais vu ça au cinéma, ou cet effet vraiment roller coaster qui était très très efficace dans Fury Road. Je trouve qu'on le ressent un peu moins. C'est d'ailleurs assez drôle que le film se termine dans les images du générique par des images de Fury Road, et on voit quand même un peu cette comparaison, et je trouve que ça souffre un peu de la comparaison. Par ailleurs, j'aime beaucoup Anya Taylor-Joy, j'aime beaucoup Chris Hemsworth et je trouve qu'il est très bien dans ce rôle. Je les trouve quand même beaucoup moins charismatiques que l'ensemble, pas que le rôle principal, mais l'ensemble des personnages de Fury Road, ce côté mutique qu'avait le personnage de Mad Max, qu'on retrouve évidemment chez Furiosa, mais qui fonctionne moins bien, peut-être aussi parce que c'est un personnage féminin et qu'on a plus l'habitude de voir des personnages féminins mutiques que des personnages masculins, c'est encore un autre sujet. Voilà, je trouve ça un peu moins fort du côté des personnages, sauf Tom Burke, qui joue donc le pilote du camion, dont on connaît un peu pour l'avoir vu dans ce film qui s'appelait The Souvenir de Johanna Hogg, dans un rôle très très différent d'Addict, où il était assez bouleversant. Et là, je le trouve assez émouvant, dans un des rares personnages positifs de ce récit, et ça fonctionne assez bien. Donc, ça m'a plu. Après, ça m'a moins plu que Fury Road. Il y a ce côté un peu déjà vu qui est quand même un peu dommage. Voilà,
c'est très étrange que ça marche pas. Mmh. Ça marche pas. Je trouve ça bien qu'on en parle ce matin parce que c'est un film que les gens vont pas voir.
Ouais.
Très bien. Donc Mad Max Fury Road. Nous avons parlé aussi de Marcello Milio de Christopher Honoré. C'est le moment déjà dans l'émission de notre intermède où chacun peut évoquer son ou ses recommandations.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Cette voix mystique, religieuse, est issue d'un film qui est passé un peu sous les radars, Foudre. C'est un premier long-métrage réalisé par Carmen Jacquier, un film suisse, passé sous les radars puisqu'il est sorti le 22 mai, donc en pleine, évidemment, en plein Cannes, en plein Festival de Cannes, le 22 mai. Donc Foudre, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, premier long-métrage, un film que j'aime beaucoup de par sa plastique, un film très pictural, avec des références picturales, donc une qualité visuelle impressionnante. Le personnage principal, c'est Elisabeth, qui est passée 5 années dans un couvent à 17 ans, durant les années l'été 1900. Et donc, on est comme ça dans son quotidien où, malgré son environnement religieux, elle s'émancipe, elle découvre la sensualité et surtout l'amour. Et c'est un film qui fait beaucoup penser au portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, parce que l'image, le visuel le rappelle, mais aussi ce portrait de femme qui s'ouvre à la sensualité et au désir, environnée de mystères. Donc, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de dissonances, beaucoup presque une dimension même fantastique dans le film, et ces chants que l'on entend qui participent à l'étrangeté de ce film magnifique, Foudre de Carmen Jacquier. Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir vu ici.
Je crois.
En fait, je l'ai vu il y a longtemps, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je voulais juste préciser pour les références picturales, enfin en tout cas de l'image du film qui est magnifique, qui est signée Marine Atlan, qui est une formidable chef opératrice et réalisatrice, qui va faire son premier long cette année et qui avait fait un film qui s'appelle Daniel Fefas.
Tout à fait, très beau. Super. Voilà. T'as bien fait de le préciser.
Ouais. Voilà. Alors, qui d'autre enchaîne sur le coup de cœur? Pierre, peut-être?
Peut-être un mot sur le fait que prochainement les films du Losange vont ressortir l'intégralité des films de Raymond Depardon, donc photographe évidemment, mais aussi cinéaste comme on le sait, et puis l'occasion peut-être de parler d'un film assez méconnu de Raymond Depardon qu'on a découvert à l'occasion du Festival de Cannes où il était présenté à Cannes Classique, c'est Les années déclic. Pour moi, c'était une vraie découverte. C'est donc un film de commande que Raymond Depardon a tourné en 1984 à l'invitation des Rencontres de la photographie d'Arles. En gros, ils l'ont invité à venir parler de son travail de façon rétrospective, mais comme il est un peu timide, il a préféré faire un film dans lequel il allait se raconter. Et c'est une super idée parce que ce film est vraiment passionnant à voir encore aujourd'hui. Alors, le dispositif est très simple. On a une caméra qui filme face Raymond Depardon en gros plan, sur son visage, et une autre caméra qui filme les photos qu'il commente. On le voit, on voit des photos, donc il fait ça en direct, et les plans alternent entre de temps en temps et entrecoupés avec des extraits de films. Donc tout ça est fait en temps réel, en une seule prise, il ne se reprend pas, donc c'est vraiment comme s'il commentait face à nous l'ensemble des photos, et à travers ces photos, il retrace toute sa vie. D'abord celle des autres, des photos des autres, qui le montrent lui, enfant, à la ferme, qui montrent ses parents, qui montrent l'exploitation familiale, puisqu'il a, il a grandi dans ce décor-là, dans la France de tout juste après la Seconde Guerre mondiale. Et puis très rapidement, on voit les siennes, ses premières photos, puisqu'il se met à photographier dès son enfance. Et puis on retrace toute sa carrière, ses premières années à Paris, la fondation de l'agence Gamma, ses voyages autour du monde. Et c'est passionnant à plus d'un titre, d'abord parce que c'est très concret sur le métier de photographe et sur la technique, ce qui est finalement assez rare dans les films qui parlent de photographie, et tout en restant tout à fait compréhensible du néophyte. Et ensuite, c'est passionnant parce que Raymond Depardon a tout fait. Il a fait de la photo de mode, il a fait de la photo de rue, il a fait du photoreportage, il a fait du nu, il a fait du paparazzi. Donc c'est un avantail assez exhaustif du métier de photographe professionnel, et en particulier du métier de photographe des années 50 aux années 70, qui a beaucoup changé aujourd'hui. Et tout ça raconté de manière très humble, très personnelle, très émouvante. C'est aussi une histoire de France en creux, et puis une histoire de lui, du chemin qu'il a parcouru et de ce retour un peu rétrospectif qu'il fait sur les choix qu'il a fait, certains qui regrettent, certains qui ne regrettent pas, qui l'ont amené là où il est aujourd'hui, en tout cas dans les années 80. Donc c'est vraiment un film passionnant que je recommande à plus d'un titre. Ça fera partie de la rétrospective Raymond Depardon par les films du Losange, qui sortira donc à la rentrée, autour de la rentrée. Ils n'ont pas communiqué de date encore, je crois, mais prochainement.
Je crois qu'il y a une expo aussi, c'est doublé d'une expo.
Et il y a une expo tout à fait à la galerie cinéma qui montre certaines des photographies de Raymond Depardon. Ce qui est assez amusant, c'est de voir la rétrospective, de voir le film et la galerie de photos, ouais, qui est aussi doublée d'un livre qui montre ces photos où on peut qui sont vraiment très très belles. Et puis il peut nous dire certaines photos qu'on peut trouver comme ça très belles, et dire ah oui bon ça c'était une commande, j'en suis pas très fier, etc. Donc il a un regard très assez extérieur à ce qu'il fait quand il fait des photos de Johnny Hallyday, bah c'est parce qu'on lui a demandé d'aller photographier Johnny Hallyday, etc. C'est assez passionnant d'ailleurs cette exposition, parce que ça montre aussi un peu la France des années 60 en particulier, parce que ça s'intéresse surtout aux années 60 pour l'exposition, vue par l'œil d'un photographe qui était au centre de tout ça. Donc oui, effectivement, très intéressant.
Nadia, ton coup de cœur.
Oui, juste avant mon coup de cœur, Feignante, Karim Dridi, on peut le relier au cinéma de Raymond Depardon, qui est dans la continuité de Wiseman. C'est-à-dire que Raymond Depardon, bien avant Nicolas Philibert, a fait Sainte Clémente, 82, Urgence, 87. Ce sont des films que j'ai découverts à l'époque absolument sidérés. Ensuite, Faits divers, Délit flagrant, 12e chambre d'audience. C'est un cinéaste qui a filmé la folie du monde à travers ses institutions.
Bien sûr, une différence quand même avec Wiseman, pour juste compléter, c'est que...
Je dis dans la continuité.
Oui, dans la continuité, mais je ne suis pas...
C'est-à-dire
pour moi, je pense pas.
Cinéaste documentariste,
ouais,
qui travaille avec...
Parce que Wiseman, Raymond Depardon, et c'est ça qui est passionnant aussi quand il filme Sainte Clémente, et d'ailleurs, dans les années d'Éclipse, ça commence par un extrait de Sainte Clémente, c'est ce qui l'intéresse en premier, c'est les visages des gens. C'est-à-dire que lui, c'est l'image. Il vient de l'image, et ce qui l'intéresse toujours, c'est l'image. Ce qu'il va chercher quand il va filmer Sainte Clémente,
c'est les institutions.
Oui, mais c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que l'institution fait des visages et crée des visages. Alors que Wiseman, ce qui lui l'intéresse, c'est l'institution d'abord et les personnes. C'est un preneur de son, Wiseman, il fait pas d'image, et c'est moins l'image. Donc je pense que c'est effectivement c'est proche. Il y a des proximités, mais on aurait tort de trop vouloir les rapprocher en raison de ses proximités, parce qu'ils font un cinéma qui est, à mon sens, très très différent, notamment sur la question de la psychiatrie.
Alors, rapidement, Karim Dridi.
Alors, il y a des cinéastes qui filment à partir du réel ou à partir de la fiction, qui sont les mêmes, les blessures. Ça passe par le corps aussi chez Karim Dridi, et c'est feignante. C'est pour ça que je le relis aussi à des grands cinéastes, il y a des gestes qui ont été faits.
Il faut rappeler Karim Dridi,
feignante,
hein, c'est d'où il
feignante,
vient... Il a fait des fictions au départ, notamment
Pigalle,
Bye Bye, dans les années 90.
Il a même fait des fictions, on lui a donné 10 millions d'euros. Avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, quel extraordinaire acteur, mon Dieu. C'est de l'humour. Je ne sais pas de quelle couleur est cet humour. Non, c'est que, comme tout cinéaste, on pourrait dire un peu classique, il y en a eu beaucoup, on peut dire qu'il a parcouru un peu tous les genres du cinéma, avec quand même une ligne rouge qu'on retrouve chez Feignante, qui est un film au titre absolument malicieux, percutant, puisque bon, il y a un certain discours ultralibéral, hein, qui paupérise, criminalise, partie de la société française, et c'est ce qu'on retrouve. Qu'est-ce que c'est fainéante ? Ce sont deux personnes, deux femmes, qui roulent. C'est un road movie, on peut dire, qui décident de vivre comme elles sont, et que la société normative considère comme au mieux délinquantes, au pire sales et criminelles. Et j'ai rarement vu un film français à la fois de très haut niveau cinématographiquement, que ce soit dans le découpage, que ce soit dans la musique, l'affiche, tout. Un très bel objet, se dire ce que peut l'esthétique, ce que peut le cinéma face à celles qui sont déconsidérées ou objectivées. Les démunis, les dépossédés, les raclures, les clochards, les prostituées, les noirs, les racisés, bref, tout ce que la société normative fascisante nous a amené à ces élections hier, catastrophe dans l'histoire. Et le cinéma nous rappelle, comme tu le dis, comme le photographe aussi, c'est s'attacher à des visages, à des corps que l'on a tendance à oublier et qui sont juste à côté de nous. Donc pour moi, Karim Dridi, avec Fainéante, il est à la fois dans la continuité de cinéma de Borzegui, dans la continuité de cinéma de Dodescaden, de Kurosawa, aussi Coris Maki, qui a fait cet extraordinaire film l'année dernière. Rappelez-moi le titre.
Les Feuilles mortes.
Les Feuilles mortes. Et là, avec cette idée libertaire, la résistance aux politiques, comme on le retrouve aussi dans Furiosa, c'est le corps, c'est l'amour et c'est l'insurrection. Et là-dessus, et c'est presque un cinéma du pauvre, je voudrais juste vous lire
rapidement, hein, parce que...
une citation de Karim Dridi. Ouais. C'est vraiment mon coup de cœur, carrément même de l'année, si ce n'est de la décennie. Je lui demande, mais parce qu'il a été saisi, c'est-à-dire qu'il a l'humilité de dire, mais je me suis trompé. Et c'est par la rencontre avec son actrice Fado Julien. Elle m'a ouvert les portes. Et pour ça, on peut dire que c'est un tournant. Ma rencontre avec Fado date d'il y a plus de 10 ans. Ça s'est passé dans le cadre d'un atelier de formation. Même si j'ai l'habitude des actrices et des acteurs, j'ai trouvé chez elle quelque chose que je n'avais pas encore vu. Une force, une présence unique. Elle vient d'un milieu que je ne connaissais pas du tout. Faire du cinéma ne l'intéressait pas vraiment. Elle ne voulait pas jouer, loin de là. C'est par elle que j'ai eu son amie Jou, qui interprète le rôle de Jules, comme pas mal de personnes qui sont dans le film, sont ceux que l'on n'aime pas voir, les punks. Mais alors, qu'est-ce que je découvre ? Que ce sont des personnes bien plus politisées qu'on l'imagine. À l'avant-poste, sur pratiquement tout, des écolos du quotidien, qui recyclent tout et ne produisent quasiment rien comme déchets. Et depuis bien longtemps, ce sont des vrais libertaires.
Très bien. Moi, je. Voilà, parce qu'on passe en fin d'année hiver à l'autre dans cette émission.
Merci,
donc,
Nadia. Donc, c'est donc... Fainéante de Karim Dridi.
Aligre FM 93.1.
Donc voilà, après Fainéante, après De Pardon, après Foudre, moi je voulais recommander quelque chose de beaucoup plus léger, mais en même temps, parce qu'on a besoin aussi, face à une actualité un peu lourde, de s'échapper un petit peu, et je voulais recommander le film de Bruno Podalydès, La Petite Vadrouille, voilà, qui a énormément de charme, et aussi le charme de la bande, de la bande reliée aussi à l'enfance, ce sentiment d'enfance qu'il y a souvent dans le cinéma de Podalydès. Et c'est le cas de ce film, c'est qui fait écho à un autre film qu'il avait fait qui s'appelle Comme un avion. Voilà, c'est aussi le même schéma narratif d'une croisière, là en l'occurrence, sur une péniche, comme ça, donc quelque chose qui avance lentement, avec un certain nombre de scénettes au fur et à mesure que le film avance. Daniel Auteuil au centre du film, Sandrine Kéberlin, au centre d'une bande, d'une petite bande, de Podalydès qu'on suit depuis au moins 20 ans et qui est extrêmement touchante, même beaucoup plus, 30 ans. Je pense à Florence Muller, je pense à Isabelle Candelier, à Jean-Noël Broutet, qui sont ces acteurs qui le suivent depuis ce début et qu'on retrouve, et qu'on a vieilli avec eux et on retrouve dans ce film. Et c'est ça aussi qui nourrit, je pense, la mélancolie et le charme de ce film. Voilà, La Petite Vadrouille, Bruno Podalydès.
J'ai très envie de le voir, et donc je ne l'ai pas encore revu, mais j'ai hâte.
Pareil.
Voilà, un excellent aussi Dimitri Doré, qui est aussi un nouveau venu dans la bande, mais qui joue un personnage burlesque assez formidable. Voilà.
Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil à Plein de Super ? Parce qu'en t'écoutant, je pensais à non, Plein de Super d'Alain Cavalier.
Rien à voir. Rien à voir avec Plein de Super, par contre.
Parce que souvent, les cinéastes dialoguent
entre
eux.
Rien à voir avec La Grande Vadrouille aussi.
Rien à voir avec La Grande Vadrouille, mais voilà. Ça, La Petite Vadrouille, c'est un titre qui fait rigoler, du coup.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Ces quelques notes anxiogènes sont signées Clint Mansell. Alors, on connaissait Clint Mansell pour Aronofsky, c'est lui qui avait signé la musique de Requiem for a Dream. Clint Mansell, ici, flirte beaucoup plus avec l'esthétique d'un Cliff Martinez. On peut penser à ses partitions pour Winding Refn, comme Neon Demon ou Drive, avec cette électronique lofi, pour ce film, donc Love Lies Bleeding.
De Rose Glace, Lou. C'est Kristen Stewart, gérante solitaire d'une salle de sport, tombée perdument amoureuse de Jackie. Cathy O'Brien, une culturiste ambitieuse. Leur relation passionnée et explosive va les entraîner, malgré elle, dans une spirale de violence. Voilà donc Love Lies Bleeding, le deuxième film de Rose Glace. Benoît Bernard, c'est vous deux qui l'avez vu avec moi.
Oui, non, c'est un film... alors c'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de pas mal de films indés américains ces derniers mois, dans cette émission notamment, je pense à La Roy, ce genre de choses. Et je trouve le film, là pour le coup, Love Lies Bleeding, c'est plus intéressant de tout ce qu'on a vu récemment, je trouve. Le film de Rose Glace, qui est une Anglaise, qui avait fait donc ce film Saint Maud, que j'avais pas vu, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs.
Oui, c'était pas terrible.
Voilà.
Ça n'engage que moi.
Bon, ce que je trouve intéressant par rapport à ce contexte-là de cinéma indépendant américain, c'est comment le film ingère, digeste beaucoup de références des années 80. Le film d'ailleurs est situé en 89, donc, et de Lost Highway à Thelma et Louise. Là, c'est Jackie et Louise, en passant par évidemment les frères Cohen, par Cronenberg, qui est une référence assumée, qu'elle aime énormément. Et voilà, pour avoir donc un film qui est un film noir, un thriller, queer, amoureux, deux femmes au centre du film. Et puis, ce qui est évidemment intéressant dans ce film, c'est le domaine du culturisme et la façon dont le corps de Cathy O'Brien, donc l'une des deux comédiennes, devient de plus en plus énorme, hein, à force de voilà, d'ingérer des stéroïdes et devient sauvage, devient violent. Et plus le film avance, plus quelque part il arrive dans une forme d'outrance comme ça que je trouve hyper intéressante. Benoît.
Alors j'ai vu ce film récemment après avoir vu The Substance à Cannes et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien. Il y a notamment un personnage qui est en représentation et qui même à un moment donné regurgite l'autre femme. Donc c'est un peu comme si ces deux femmes étaient la même avec deux facettes. Une monstrueuse, musclée et l'autre plus fragile et amoureuse. Donc il y a cette thématique du double. Il y a cette thématique de s'attaquer aux hommes, du regard des hommes porté sur elle. Il y a cette thématique de l'échec où elle devient très très grande en fait, donc il y a cette dynamique justement de cette femme géante, on pense au cinéma bis, etc. Donc moi il y a des images qui me restent, notamment quand elle devient géante et que son amoureuse la regarde avec un petit sourire, donc il y a une complicité comme ça ludique qui s'installe, donc il y a des images qui me restent, un onirisme aussi, donc une image presque même de vidéoclip, mais ce qui m'a manqué, pour ne pas totalement l'aimer, c'est un récit fluide. Je trouve qu'il y a des fulgurances, mais je n'ai pas totalement été ému sur la durée.
Moi, je voulais juste revenir sur un truc que tu disais, Bernard, tout à l'heure, sur la notion de cinéma indépendant. Parce que c'est vrai que le cinéma indépendant américain, on peut le définir à la fois d'une manière économique, indépendant parce que peu de moyens, parce que séparé des studios, etc. Et d'une manière esthétique, quoi. Il y avait un style cinéma indépendant, etc. Et à mon sens, c'est... Ça ressemble, ça correspond tout à fait à cette mode d'un cinéma dit indépendant, c'est-à-dire qu'il y a cette esthétique qui vise un public, disons, de trentenaires, cinéphiles, urbains, etc. Et qu'il y a une esthétique dit indé, mais qui est un pur cinéma de studio. En l'occurrence, c'est un cinéma, c'est A24, donc ce gros studio qui s'est développé autour de l'indépendance, mais qui voilà, n'est indépendante juste parce que c'est pas une major, mais ça a vraiment le pouvoir d'une major, presque, en tout cas, dans le système américain. Et c'est vraiment une logique de studio, parce que c'est pas un cinéma indépendant avec une jeune réalisatrice qui se démènerait pour trouver des fonds pour financer son film. Là, on est venu la chercher parce qu'elle a eu un succès avec un film indépendant britannique, mais qui a eu pas mal de succès outre-Atlantique, donc Saint-Maud. On est venu la chercher. On lui a proposé un film, un budget, etc. Et elle a pu développer ce film. Donc c'est une logique vraiment de studio, quoi. C'est exactement ce qu'on retrouve.
De fausse indépendance.
Oui, c'est indépendance dans le côté. C'est ça, et ça joue un peu sur ces codes-là. Mais pour moi, c'est véritablement un film de studio ou de petit studio comme les A24. Et ça correspond complètement à ce style A24, c'est-à-dire c'est effectivement ultra référencé. Moi, ça me fait pas mal penser aussi à Julia Ducournau avec Titan, qui était aussi plein de références. De substances de Coralie Farja complètement. parfois un peu trop référencé, c'est-à-dire on sent vraiment les clins d'œil, il y a ce cinéma des années 80, ça se passe dans les années 80, donc ça joue beaucoup aussi de cette esthétique, qui est aussi une esthétique très à la mode, donc c'est un cinéma qui se veut aussi très à la mode. Ça, ça m'embête toujours un peu, parce que je me dis à quel point ça va vieillir, ces films, j'ai l'impression qu'on les verra plus beaucoup d'ici même 5-6 ans, voire plus, donc ça c'est un peu dommage. Je trouve intéressant ce travail autour du culturisme qu'on avait déjà vu dans No Pain No Gain, où on avait ce film de casse qui était avec deux mecs ultra costauds qui faisaient du culturisme, où on travaillait le corps. Mais là, c'est évidemment plus intéressant puisque c'est un point de vue féminin. Donc
C'est de Michael Bay, tout à fait.
Le personnage de Katie O'Brien est effectivement un personnage très, très intéressant. Kristen Stewart joue le type de personnage qu'elle joue dans tous ses films maintenant depuis quelques années. Hein. On aura l'impression que c'est la même qu'on avait vue chez Olivier Assayas il y a une dizaine d'années, transposée dans un club. Et toute l'histoire parallèle de gangsters avec des gueules improbables, vraiment très irritées effectivement du cinéma des frères Coen, première époque. Moi, je me passionne pas outre mesure, donc j'ai trouvé ça formellement intéressant par moment, mais un peu flemmard dans l'ensemble et très à la mode, quoi. C'est un peu ça ce que je reprocherais à ce film, qui est typique d'un certain type de cinéma qu'on voit de plus en plus en ce moment.
Love Lies Bleeding, donc. Et là, on va retrouver un film qui était présenté à Cannes, comme c'était le cas tout à l'heure avec Marcello Mio et Furiosa. Il s'agit de Rendez-vous avec Pol Pot, film de Riti Pan, musique à l'instant de Marc Marder dans cette fragilité cristalline. Marc Marder, c'est un peu vraiment un tandem avec Riti Pan, c'est peut-être même l'un des plus grands tandems du cinéma en nombre de films, hein, ils ont fait plus d'une trentaine de films ensemble. Marc Marder et Riti Pan d'origine cambodgienne, Marc Marder d'origine américaine, ils se sont rencontrés sur cette question cambodgienne et on peut citer L'image manquante, Exil irradié et donc ce rendez-vous avec Pol Pot qui était présent à Cannes, hors compétition.
Et donc effectivement, Rendez-vous avec Pol Pot de Riti Pan, 1978. Depuis 3 ans, le Cambodge, devenu Kampuchea démocratique, est sous le joug de Pol Pot et ses Khmers rouges. Le pays était économiquement exsangue et près de 2 millions de Cambodgiens ont péri dans un génocide encore tué. 3 Français ont accepté l'invitation du régime et espèrent un entretien exclusif avec Pol Pot, une journaliste familière du pays, un reporter, photographe et un intellectuel sympathisant de l'idéologie révolutionnaire. Mais la réalité qu'ils perçoivent sous la propagande et le traitement qu'on leur réserve va peu à peu faire basculer les certitudes de chacun. Je précise aussi que c'est une fiction parce que beaucoup de gens ont pensé au départ qu'il s'agissait d'un documentaire vu qu'il est notamment connu, Riti Pan, pour ses documentaires qui frôlent avec la fiction. Et donc c'est une fiction avec Irène Jacob, Grégoire Collin, notamment dans les rôles principaux. Je n'ai pas vu, donc je vous laisse la parole.
Grand revival d'ailleurs de Grégoire Collin qui jouait dans La mer au loin de Saïd Ami. C'est ça. Excellent film.
Et moi je vais surtout laisser Nadia parler de ce film. Je vais juste dire quelques petits éléments d'informations. Donc tu as dit que c'était une fiction, il y a un mélange entre documentaire et fiction. C'est-à-dire qu'en fait, Riti Pan fait une sorte, réutilise plein de dispositifs qu'il a pu utiliser. Donc dans L'image manquante, il avait utilisé des figurines pour figurer, représenter l'horreur. Il reprend ici cette idée de la figurine, c'est-à-dire que Riti Pan ne peut pas filmer l'horreur et le génocide. Il va passer par le détournement des figurines. Il y a des images d'archives, des images documentaires et la fiction qui passe à travers ces personnages de journalistes qui sont manipulés, censurés. On voit bien qu'on leur offre une image d'Épinal, mais que le régime de Pol Pot va les amener vers l'horreur. Donc il y a ce glissement, en quelque sorte, entre on va rencontrer Pol Pot, on rêve de le rencontrer, il y a toute une image d'Épinal qui va se fissurer. Et donc moi, ce que j'ai aimé, donc j'ai aimé le film, c'est ce basculement lié à cette manipulation, c'est le vernis qui se fissure. Nadia,
moi, je l'ai vu à Cannes, la première, et On a besoin de cinéastes comme Ritty Palme parce que, il faut rappeler, en 75, il a 11 ans. Il a été interné pendant un an et demi. Il a perdu toute sa famille. Bon, c'est un rescapé. 2 millions de morts en quelques temps. Un génocide. Quand on voit le cinéma cambodgien de l'époque, comme on peut le voir aussi dans toutes les époques tragiques, ça s'amuse, il y a des divertissements, il y a des comédies, donc amnésie aussi de la production. Et on peut se dire, mais ça fait plus de 30 ans qu'il fait du cinéma, il écrit aussi. Il avait déjà fait des fictions avec des comédiens, c'est pas sa première fiction. Et c'est un motif obsessionnel. Et c'est vrai que on se dit à la fois, c'est quelque chose qu'il ne peut pas ne pas faire, qu'il épuise et qu'il ne pourra jamais épuiser. On ne pourra jamais épuiser, on ne pourra jamais se dire « Oh là là, il y a trop de douleur. Oh, j'en ai marre de la guerre. Oh, j'en ai marre de ci. » Donc, c'est aussi ça à laquelle j'ai été très touchée, de ne pas renoncer à raconter. Effectivement, différentes formes. Dans Irradié, par exemple, qui, je pense, reste pour moi son film le plus difficile à regarder et ô combien nécessaire, il utilisait nombre d'archives. Et pas simplement cambodgiennes. Mais là, il y a une malice dans le film, une malice terrifiante. On connaît l'anecdote, il y a un très beau texte de André Bazin. En 39, septembre 39, c'est à la fois le début du tournage de Charlie Chaplin, le dictateur, mais aussi le lancement de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne savait pas l'horreur des camps d'extermination, mais pourtant le film a été fait. Et il a fait quelque chose d'assez absurde, Chaplin, c'est qu'il a volé la moustache. Ça, c'est la citation de Bazin. Il a volé la moustache. Ils sont nés au mois d'avril, en 89. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été reçu aux Beaux-Arts, Hitler ? Pour Pol Pot, hélas, on le sait. Et la malice du film, c'est qu'il incarne pour épuiser le monstre. Comment fait-on ? Ce rendez-vous avec Pol Pot est différé. On est en suspens. Donc il y a un caractère presque coquin. Veut-on voir ? A-t-on envie de voir ? Veut-on voir le criminel ? Veut-on voir l'ordure ? Mais comment le représenter ? Comment l'incarner ? Je fais un film de fiction avec des comédiens. Donc je joue sur les attentes. Et là, sans dévoiler ce qui se joue, il a réussi, à mon humble avis, par une malice burlesque, terrifiante, à annihiler, à vider de substance. Et ça, c'est aussi ça la question du cinéma, qui reprend la question aussi de l'image, qui a été la peinture, la photographie. Visage, présence, incarnation, dialectique, rapport. Évidemment qu'on est ébloui par les salauds au cinéma, mais à quel niveau on est ébloui ?
Refus spectaculaire, suspense désamorcé.
Oui, il y a eu d'autres précédents avant lui. Fritz Lang, on lui a proposé. Il a dit « Non, non, merci, j'ai pas envie d'être votre cinéaste. » Il est parti, il est venu en France, il a fait un superbe film. Il est parti aux États-Unis, il n'a eu cesse de filmer le mal. Mais quand il filmait Mabuse, donc c'est Mabuse, on sait à quoi ça fait référence. Donc voilà, Ritty Palme, il est à ces questions-là. Et ça donne, en plus, vraiment le plaisir de retrouver Grégoire Collin.
Et Irène Jacob.
Et ça nous dit aussi, nous, nos espoirs. Le politique nous étourdit. Et jusqu'à quel point on est prêt à payer de nos vies. Voilà. Donc, rendez-vous avec Pol Pot. Fortement recommandé.
Et donc, on est aligné là-dessus.
Ah oui. Oui, aligné ou non-aligné. Enfin, ça dépend de quel
point. Non, je veux dire, j'aime aussi le film, c'est ce que je veux dire. Après, on a
non, parce qu'il y a les non-alignés.
Le film est en salle, en tout cas.
Voilà, le film est en salle. Bien sûr. Depuis le 5.
C'est bien de le rappeler.
Il est aligné en place.
Ouais, depuis le 5 juin.
Voilà, rendez-vous avec Cannes aussi.
Oui.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Cette musique avec cette petite flûte, ce petit motif de quelques notes illustre un chien au cœur du film Le procès du chien, film premier long métrage de Laetitia Doche présenté à Un certain regard avec la musique de David Stenke qui était aussi par ailleurs compositeur pour Michael Herz. Donc super partition, donc je voulais ouvrir ce débrief Cannes avec cette musique qui est une des belles partitions du festival de Cannes.
Ouais, la réussite du film.
Et la réussite du film que j'aime aussi par ailleurs.
Bon, je préfère la musique.
Ça commence. Alors, on s'organise comment ? On parle du palmarès ?
Moi, j'y étais pas, donc je vous laisse.
Parlons du palmarès. Est-ce que, oui, on peut commencer par
Anora, par exemple.
Par Anora, effectivement, la palme d'or, Anora de Sean Baker. J'étais très surpris d'apprendre que c'était la palme d'or, mais en même temps très content, parce que j'aime beaucoup Sean Baker. Je pense que c'est pas mon film préféré de Sean Baker. Moi, j'avais adoré Red Rocket, qui était parti du précédent festival de Cannes sans rien, ce qui était un peu dommage. Donc là, c'est un peu, voilà, c'est rétabli pour lui. C'est assez beau de voir ce type de cinéma récompensé, parce que c'est toujours particulier avec Sean Baker. C'est quand on se met à résumer ses films, on est en train de se dire, oh là là, de quoi ça parle, c'est quoi cette histoire. Là, c'est Anora, c'est l'histoire effectivement d'une jeune prostituée qui se rapproche d'un fils d'oligarque russe, qui commence à vivre plus ou moins ensemble jusqu'à ce que le fils d'oligarque se fait taper sur les doigts par ses parents. Donc voilà, petite histoire assez légère, mais qui en fin de compte est déjà très 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 drôle. Il y a un humour assez particulier de Sean Baker qui, moi, je suis toujours conquis par cet humour. C'est en même temps aussi très émouvant, c'est-à-dire qu'il arrive à conjuguer la comédie avec le vrai film d'amour, d'émotion. C'est assez fort quand les personnages retournent à la réalité. Et puis, il montre des personnages qu'on voit assez peu dans le cinéma, ce qui donne une dimension, toute proportion gardée, assez politique à ces films, parce que c'est des personnages assez rares. Voilà, on parle beaucoup d'oligarques russes en ce moment avec les sanctions, etc. Mais c'est assez drôle d'en voir dans des films, fils d'oligarques russes, et puis aussi, voilà, ces gens qui sont un peu des laissés pour compte de la société américaine, qu'on retrouve dans The Florida Project, dans Red Rocket, et ici dans Anora, ou dans Tangerine aussi, un de ses premiers films qui est sorti en France, en tout cas, parce que ses précédents films n'étaient pas sortis en France. Donc voilà, un cinéaste que j'aime beaucoup, donc je suis assez content pour ça, même s'il y avait effectivement d'autres films palmables, ouais, dont un en particulier.
Et de manière générale, je ne veux pas rentrer dans le détail de chaque film de primé, parce qu'on n'a pas le temps, etc., mais peut-être de manière globale, on est, je crois, tous d'accord pour dire que c'était une faible année en moyenne, qualitativement, de la compétition, malgré le fait que, du coup, il y avait une évidence, j'ai l'impression, puisque sur la vingtaine de films de la compétition, mes six meilleurs, en tout cas ceux que je dégageais comme mes six meilleurs, il y en a cinq au palmarès. Donc il y avait comme une évidence. Je vais juste citer celui qui n'est pas primé, donc c'est un peu mon regret, c'est le film de Jason Ke, Cause This Tide, qui est vraiment pour moi une fresque poétique, le film chinois de Jason Ke, en fait, où il reprend des rushs qu'il avait tournés depuis des années. Et donc, c'est une fresque poétique anti-narrative, même si on retrouve un personnage de fiction incarné par sa femme qui revient à différentes époques dans l'histoire. Donc, ça, voilà, ça, c'est un très beau film qui n'est pas dans le palmarès, mais sinon, les cinq autres que j'ai beaucoup aimé, donc Anora, qui est la palme d'or. J'aime beaucoup le film All We Imagine As Light, le film de Kapadia. Qui est vraiment beau,
indien,
qui est un film qui n'est pas dans le spectaculaire. Donc ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, ils ont osé primer un film qui est dans la sensibilité délicate, dans les moments de creux. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Je l'ai vu, ouais. Oui, c'est ça. J'ai pas de critique à donner à ce film, je le trouve très bien, etc., mais c'est vraiment du film de Cannes, quoi.
Ouais.
Donc bon, c'est le genre de film qu'on voit à Cannes, on trouve ça très bien, c'est très émouvant, c'est très fort, les personnages, c'est un peu trop misérabiliste par moments, et puis c'est une esthétique qui est vraiment de film de festival que je trouve bien, mais ça n'a pas la force d'Anora ou d'un autre film, que moi c'est le film que je regrette du palmarès, qui va avoir un destin un peu trouble, malheureusement. C'est The Apprentice d'Ali Abbasi, qui est vraiment pour moi le grand film sur Trump, quoi, et qui est une question de comment est-ce qu'on peut filmer Trump au cinéma, comment est-ce qu'on peut. Donc c'est un film qui raconte les jeunes années de Donald Trump jusqu'à ce qu'il devienne un peu la figure qu'on connaît aujourd'hui, comment est-ce qu'il devient sa propre caricature. C'est assez passionnant de voir un personnage se transformer et un acteur du coup se transformer lui-même, Sébastien Stan, qu'on connaît des Marvel, qui là est vraiment surprenant dans ce rôle. Jeremy Strong, qu'on a vu dans cette fameuse série qui s'appelle Succession, et qui là a un rôle d'avocat, Ray Kahn, ce fameux avocat qui était représenté dans Angels in America, avocat homophobe et en même temps mort du sida, qui est un personnage assez complexe et terrible de l'Amérique des années 80.
Mais The Apprentice, qui n'est pas dans le palmarès, hein, pour préciser.
Qui n'est pas dans le palmarès.
Et que moi, je n'ai pas du tout aimé, mais tu le défends. Mais
voilà, c'est ça.
Bon,
c'est
ça.
On n'a pas le temps pour les débats.
Nadia,
peut-être sur le palmarès
ou un coup de cœur.
Ah bah oui, quand même. Mégalopolis, c'est quand même... un immense coup de cœur. Et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi une partie de la critique française...
ne l'aimait pas.
Oui, il faut dire...
Bien établi.
Aux auditeurs qui n'ont pas connu oui. Que c'est très divisé.
Oui,
même
bah,
autour de cette table.
Oui. Oui, mais peu importe.
Oui, non, mais c'est bien, au contraire.
Peu importe. Non, là où c'était criminel, et je pèse mes mots, c'est quand cette même critique institutionnelle établie crache avec vulgarité. Ne pas aimer un film. D'accord. Mais nous donner à penser pourquoi. Mais cracher avec une telle vulgarité, une telle arrogance, non. Et c'est un film que j'ai envie de revoir, parce que... Qu'est-ce que ce film, Mégalopolis ? C'est un immense champ d'amour, pouvoir de la fiction. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et j'étais en train de me dire, mais quand l'aurore est venue, dans les années 20, 26, 27, peut-être que le public l'a rejeté aussi. Parce qu'il y a tous les possibles du cinéma... sans cynisme, avec quelque chose qui est absolument unique. Je me tourne vers toi, Pierre. Je n'ai jamais vu ça. Je ne veux pas dévoiler en me demandant ce qui est arrivé durant la projection. Est-ce que ça
moi
va
j'ai
pouvoir...
J'ai vu ça des centaines de fois dans ce qu'on appelle le théâtre et qui existe depuis pas mal d'années
oui,
avant
mais
le
là...
cinéma.
Oui, mais là, non, mais là, c'est
on
du mépris là. Non, là, c'est du mépris.
Mais qu'on comprend pas, il faut voir.
Je parle du cinéma.
On va pas
je
pouvoir.
En tous les cas, c'est important de voir ce film.
Donc,
le film.
Si on aime Furiosa, on ne peut pas ne pas aimer Mégalopolis. Ne serait-ce même que de pouvoir, parce que ce film va sortir au mois de septembre.
Et il n'est pas dans le palmarès, hein, juste le préciser. Ce que je, on
c'est une erreur.
Débrief
pour
du
moi.
Palmarès.
C'est une erreur.
Juste citer les autres films du palmarès, juste pour terminer. Donc il y a Les Graines du Figuier Sauvage qui a eu le prix spécial du jury.
Razoulov.
Qui est grand favori pour la Palme d'Or.
Voilà. Grand Tour de Miguel Gomes, portugais, qui a reçu le prix de la mise en scène. Rafferty, Substance. Musique de Rafferty, de Coralie Ferja qui a reçu le prix du scénario.
C'était musique en premier, quoi. C'est vraiment.
C'est vraiment. Et Emilia Pérez, de Jacques Audiard, qui a reçu le prix du jury et prix d'interprétation féminine. Voilà un peu pour les grands prix du palmarès, pour citer un peu tous les films.
Et dont on reparlera dans l'émission.
Et dont on reparlera dans l'émission en temps voulu. Merci,
et
Nadia.
Et le Sorrentino aussi, qui a été écarté.
Et Paternopé, oui. Qui n'est pas dans le palmarès.
Oui,
on peut lancer des débats. Voilà, moi, j'ai pas
c'est
dit
si grave, Sorrentino. Voilà. Bon, allez, merci Nadia, merci Benoît, Pierre.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous. Et on termine avec une chanson de Anora.
Oui, qui nous rappelle des souvenirs pour ceux qui ont grandi dans les années 90-2000.
C'était la dernière de la saison, je crois. On se retrouve
pour vivre le cinéma, pour la table
cinéma.
Ronde.
La table ronde critique. On se retrouve en septembre. Bel été.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.